De principe actif, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver après un si long silence dû aux conditions sanitaires. Toute l'équipe de nous à vous, plutôt de vous à nous, on vous dit presque tout. Michel, Florence, Marie-Claude, Guy, Lucette, sans oublier Vincent et Jean-Jean, nos animateurs, sont heureux de vous retrouver. Nous avons hésité longtemps avant de choisir un sujet qui pourrait intéresser le plus grand nombre. Et c'est le cinéma qui l'a remporté. Vaste sujet, me direz-vous. Certes, entre 1896, où les frères Lumière présentaient l'arrivée du train en gare de la Ciotat, et 2021, où l'on retrouve des films comme Dune ou le dernier James Bond truffé d'effets spéciaux, il s'en est passé des choses. Le cinéma a forcément évolué. Évolué au rythme de l'imagination humaine qui, on le sait, n'a pas de limite. La technologie a bien aidé l'imagination des hommes. On a eu d'abord le film en noir et blanc, puis les premiers trucages de Georges Méliès, puis le cinéma parlant, l'introduction de la couleur, le cinéma du numérique. La liste est déjà longue et elle ne demande qu'à s'agrandir. Je ne parlerai pas là des différentes formes de films, dessins animés, films d'aventure, mais de l'importance qu'a pris le 7e art dans la société. Le cinéma, c'est d'abord une source de loisirs, qui donc n'a pas du bonheur à s'asseoir dans un fauteuil confortable face au grand écran. C'est aussi une source de vie sociale. On va au cinéma, entre amis, en famille, quelquefois seul, mais on peut échanger avec le voisin sur ce qu'on a pensé du film. Une source de culture, parce qu'on va visiter des pays où on n'ira peut-être jamais. On remonte le cours de l'histoire, on se projette dans un futur incertain. C'est aussi une source économique. Tous les métiers touchant vraiment le cinéma, bien sûr, mais aussi les commerces annexes, les restaurants, les buvettes, les librairies. C'est malheureusement quelquefois une source de propagande, comme Goebbels avec les nazis. C'est aussi une source de contestation contre la peine de mort avec le pullover rouge en France, la voix de la justice aux USA. Pour l'avortement, histoire d'un en 1974 et l'événement en 2021. Contre les pouvoirs totalitaires, Costa Gavras en a été un des principaux. Un des principaux réalisateurs à s'en occuper. Z, par exemple, l'aveu. Ce sont quelques-uns de ces sujets qui vont vous être présentés maintenant.
Je vous présente le cinéma pour vous. Un bon divertissement, un bon loisir.
Un divertissement.
Un divertissement, une évasion.
Une petite réflexion.
Le cinéma, on n'y va pas souvent. Franchement, ce n'est pas des choses qu'on fait le plus souvent.
Pourquoi vous n'y allez pas souvent?
C'est cher, déjà d'une. De deux, on habite à la campagne, donc il faut revenir. On n'est pas alimenté par les bus pour les enfants et tout ça.
Ça représente un divertissement. Pouvoir découvrir de nouvelles choses. Du loisir, en fait, tout simplement.
Un loisir?
Oui, avant tout.
Ouais, je suis sportif, mais je mange le cinéma. J'aime regarder la télévision, puis voir un match de foot.
Ça va aussi, là. Oui, déjà, le prix, et puis non, ça m'intéresse pas.
De bons souvenirs d'enfance, surtout, parce que j'ai vécu beaucoup, mais oui, ça a de bons souvenirs.
Je vais très rarement au cinéma. J'ai été voir les Baudins, je les adore, mais mon femme y va régulièrement, mais moi, c'est rare.
La culture, le plaisir d'être ensemble, en famille ou entre amis.
Le cinéma, le 7e art, s'accomplit grâce au travail collectif. En effet, pour donner l'existence à un film, il faut mettre en rapport des dizaines, voire des centaines de collaborateurs, sans compter les millions d'euros du budget. En conséquence, le film exige un maître d'œuvre qui fédère et dirige toutes les énergies. C'est le rôle du réalisateur, encore appelé metteur en scène ou cinéaste. Sans être systématiquement à l'origine du projet dont il dirigera l'exécution, il constitue cependant l'autorité dont dépendent tous les choix artistiques du tournage. La réalisation d'un film se décompose en fait en trois étapes. La pré-production, le tournage, le montage. La pré-production dure une dizaine de semaines. C'est pendant cette période que sont décidés et mis en œuvre tous les choix qui rendront possible la réalisation. Développement d'une idée originale ou adaptation d'une œuvre littéraire, le scénario constitue l'étape nécessaire où le désir de film devient un projet concret, écrit par le scénariste, seul ou en collaboration avec le réalisateur. Le scénario se présente d'abord sous la forme d'un synopsis d'une dizaine de pages qui expose l'intrigue du film sans entrer dans les détails. Ce synopsis est ensuite développé et enrichi de dialogues, de la numérotation des scènes et des décors, des ordres d'une centaine de pages, il devient alors le scénario référence du film. Pour devenir un film, le projet a besoin d'être pris en charge par une structure financière. C'est le rôle du producteur de trouver de l'argent pour réaliser un film, puis de contrôler comment celui-ci est dépensé. Au cours de cette préparation, le metteur en scène, en étroite concertation avec le producteur, procède à la sélection des comédiens principaux, les vedettes, fixe un calendrier de réalisation. Il décide avec les responsables concernés, comme le décorateur, les costumières, des décors et des habillements. Quelques jours avant le tournage, le directeur de casting cherche les personnages ayant un rôle secondaire. Une fois tous ces choix arrêtés, commence le tournage. La période la plus courte puisqu'elle dure 6 à 10 semaines. Pendant cette phase cruciale, toute erreur se traduit par de l'argent dépensé. Évidemment, ça ne fait pas plaisir au producteur. C'est vers le réalisateur que chacun se tourne pour les moindres décisions. C'est lui qui détermine le choix des mises en scène, comme au théâtre. C'est lui qui dirige les comédiens sur le tournage. Ses principaux collaborateurs sont le directeur de la photographie et l'ingénieur du son, tous deux responsables de l'enregistrement du matériau qui sera ensuite assemblé pour constituer le film, ainsi que ses deux assistants les plus proches, l'assistant réalisateur et la script girl qui note tout. C'est le véritable aide-mémoire du metteur en scène. La dernière étape est celle du montage. C'est la plus longue puisqu'elle dure 35 semaines. Pendant cette période sont associés les éléments du tournage principal, aussi bien que les images et les sons produits séparément pour être incorporés dans le montage final. Le chef monteur et l'ingénieur du son chargé du mixage n'interviennent réellement qu'après la fin du tournage, dont ils sont largement dissociés, tout comme les techniciens des effets spéciaux. Quand le film est terminé, il passe dans les salles, c'est la distribution. Le distributeur, c'est l'intermédiaire entre le producteur et les salles de cinéma. Soit le distributeur intervient dans la pré-production grâce à un système d'avance sur les recettes à venir, cette avance qui garantit que le film sera distribué une fois achevé. En France, le marché de la distribution est dominé d'une part par les grandes sociétés nationales comme Pathé, Gaumont, et d'autre part par les filiales des grandes compagnies américaines, MGM, Paramount, qui n'interviennent pas dans la production, mais se contentent de diffuser leur propre catalogue. Ensemble, toutes ces sociétés représentent près de 90% du marché. Mais il existe une douzaine de sociétés plus modestes et de nombreuses entreprises artisanales, ce sont les distributeurs indépendants, qui se consacrent à des créneaux spécialisés comme les films d'art et d'essai, les films de karaté. Lorsque le distributeur achète les droits d'un film étranger, il doit régler tous les frais engagés pour en assurer la sortie, le doublage, le sous-titrage, le tirage des copies, la publicité, les relations avec la presse. Désormais, la vie d'un film ne s'arrête pas avec la fin de son exploitation en salle. Sa carrière se poursuit à la télévision, sur le câble, en vidéo-disque. Merci Michel. Maintenant, une pause musicale.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Pas de partir en vacances, ma fête c'est pour toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. Moi, je prends ma revanche sur les camps noirs de mer blanche où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur ses hanches, puis un travelling panorama. Sur quatre voies d'île grand format, voilà comment le film commence.
Vous avez reconnu donc Claude Nougaro, l'écran noir de Minuit Blanche. Et maintenant, nous allons écouter Marie-Claude qui a eu la joie d'interviewer M. Joubiot, le directeur du cinéma Pathé Évreux.
Nous recevons aujourd'hui M. Sébastien Joubiot, directeur du Ciné Pathé à Évreux. On va peut-être vous demander d'abord un petit peu votre fonction, s'il vous plaît, en quelques mots.
Et bien, tout simplement, bonjour d'abord, je suis le directeur du cinéma à Évreux depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc je m'occupe d'appliquer la stratégie Pathé pour le cinéma d'Évreux et d'encadrer l'équipe qui se compose de entre 15 et 20 personnes. Ça dépend des périodes, en ce moment on est plutôt autour de 15 quand même, donc mais voilà, c'est une principale fonction, voilà, appliquer la stratégie du groupe Pathé pour le cinéma d'Évreux et manager l'ensemble des salariés.
Alors ma première question, ça va être comment allez-vous Sébastien et Joubiot après 6 mois de reprise de l'ouverture du spectacle en mai. Comment ça s'est passé ces 6 mois?
Si vous me posiez cette question tous les matins, vous n'auriez pas la même réponse. Tant que la lumière reste allumée, ça va. Mais disons qu'avec les nouvelles qui arrivent en continu et quotidiennement et qui sont de moins en moins bonnes, c'est difficile de rester optimiste, mais on essaye. En tout cas, ici, tout le monde est inquiet sur ce qui va advenir, parce qu'il ne faut pas rappeler que il faut pas oublier qu'en dehors des boîtes de nuit, on est avec tout ce qui est culture, stade, les premiers à fermer. Hein, si jamais on devait passer à des règles un peu plus strictes, on serait dans les tout premiers impactés. Donc pour l'instant, ça va, mais un peu inquiet.
Mais la crainte est là quand même. Hein. Voilà, c'est ça.
Très concrètement, avec les nouvelles qui arrivent au fur et à mesure, c'est difficile.
Et puis tous les jours, il y a des nouvelles annonces, etc.
On est dans un monde de l'information aujourd'hui.
Bien sûr.
Si on se coupe pas de l'information, elle nous parvient tout de même. Donc on est noyé dedans et on baigne en permanence dedans. Donc il faut aussi savoir se couper un peu des réseaux.
Alors aujourd'hui, là, nous sommes dans le hall, le grand hall du cinéma. Où se déroule donc un des festivals, qui est le Festival international du film d'éducation.
Oui.
C'est une énorme organisation.
Oui.
Je viens de le voir.
Oui.
Comment vous appréhendez ce type d'organisation et cette manifestation?
Alors, on l'appréhende plutôt bien parce que ça fait 17 ans. Alors, c'est pas un mariage, mais pas loin. Ça fait 17 ans que le comité d'organisation du festival nous fait confiance pour les accueillir. Et donc, on est un petit peu habitués. En tout cas, on sait ce qu'ils attendent de nous. Et ils savent à peu près ce qu'ils peuvent faire chez nous. Et ils sont presque un petit peu chez eux maintenant. Donc, à ceci près que c'est un des la première édition qui s'organise dans un contexte sanitaire plus difficile. Donc je pense qu'on vous a demandé votre passe sanitaire pour
bien sûr.
Voilà, mais ça fait depuis le mois de juillet qu'on est avec nos petits téléphones à scanner les passes sanitaires de toutes les personnes qui rentrent dans le cinéma, et aujourd'hui de plus de 12 ans et 2 mois.
Oui, et il y a d'autres festivals aussi sur Évreux, des grands festivals, des moins grands, des différents, des thématiques différentes.
Alors là c'est le seul qui se déroule entièrement chez nous.
D'accord.
Donc sur les 4 jours, toutes les projections se passent dans le cinéma, et vous avez vu, on déménage une bonne partie de notre hall pour qu'ils puissent installer leur bureau, leur studio. Enfin voilà, c'est chaque année et un petit peu plus. Il va bientôt falloir qu'on pousse les murs. Mais après, oui, il y a d'autres festivals, mais qui sont organisés pas seulement sur le pâté d'Évreux, mais un petit peu dans tous les cinémas normands. On peut penser au festival Génération Durable qui va traiter des thématiques environnementales, mais où on va accueillir quelques projections, en moyenne 4 ou 5, mais qui vont aller un petit peu sur d'autres cinémas de la région Normandie. Donc voilà, je pense à celui-là, mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, oui.
Festivals nationaux, mais après, on a beaucoup d'opérations commerciales qui jalonnent toute l'année quand on est ouvert.
Alors, on parlait d'organisation du festival en particulier, mais de l'ouverture, de la réouverture en mai. Vous avez été obligé de mettre en place toute une organisation de passe sanitaire, de passage, etc.
Il y a eu plusieurs phases de réouverture. Déjà, il y a eu celle en 2020, au mois de juin, qui est déjà une organisation à part, mais depuis mai, ça s'est fait sur 3 phases de mémoire, et puis la quatrième était l'introduction du pass sanitaire, avec une première jauge à 30% de la capacité des salles, une deuxième jauge 3 semaines après avec 60% de la capacité, puis une jauge à plein début juillet. Donc en un mois et demi, on avait jauge à plein, avec toujours l'obligation du port de masque, et puis certaines, éviter que les flux se croisent, des règles de bon sens dans un contexte sanitaire qu'on s'est mis à appliquer le plus
strict possible,
le plus strictement possible, en essayant d'être un peu pédagogue, mais essayer d'être strict parce que c'est effectivement notre ouverture qui en dépend au final.
Bien sûr.
Et puis l'application du pass sanitaire un petit peu avant les restaurants à partir du 21 juillet, ce qui avait été un petit peu un petit coup dur, mais bon. Encore une fois, je préfère demander un pass sanitaire plutôt que d'avoir à fermer. Donc voilà.
Parlons un peu d'autre chose, parlons de l'avenir un peu. La programmation, comment est-ce que ça se passe chez vous, c'est pâté? Est-ce que c'est pâté, c'est Paris, enfin Paris,
c'est le Paris qui négocie. Il y a
d'accord.
Un service programmation.
D'accord.
Qui est constitué d'une petite dizaine de personnes.
Oui.
Qui s'occupent de programmer les 80 cinémas du groupe.
D'accord.
Voilà, c'est eux qui sont en relation directe avec les distributeurs de films et qui vont nous appeler une à deux fois par semaine et entamer une discussion avec nous. Voilà, tu vas prendre tel film pour 3 séances, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que,
Il y a un échange, vous avez une marge de manœuvre ou pas du tout?
Une petite marge de manœuvre, en tout cas les horaires, c'est nous qui les fixons.
Oui.
Mais il y a une petite marge de manœuvre, mais c'est des négociations de groupe, donc elles restent assez à la marge. Même si, étant l'un des seuls cinémas labellisés RSA, classé RSA du groupe,
le label, le fameux label,
j'ai un peu plus de latitude pour discuter de films un peu plus pointus avec la programmation.
D'accord.
Mais c'est au niveau, c'est centralisé au niveau du service programmation du groupe Pathé.
Quelques chiffres concernant le complexe ici, le nombre d'entrées, le nombre de films,
etc. 2019, c'était un peu plus de 500 000 entrées, 510 000, voilà, à peu près 510 000 entrées. 2020, en comptant, on a fermé pendant
8 mois.
Plus de la moitié de l'année.
Oui, oui.
On a fait 130 000 entrées.
Ce qui est pas mal, hein, peut-être.
Ça fait une grosse chute, quand même.
Grosse chute, oui.
Une grosse chute. Oui. Et puis cette année, à date, là, on en est à 170 000 en ayant rouvert à peu près la moitié de l'année aussi.
D'accord, ok.
Donc, voilà. Et sur une année normale, on est entre 300 et 400 films par an.
Est-ce qu'on peut considérer, ou vous pouvez considérer qu'Évreux est toujours une ville cinéphile, comme ça a été il y a quelques années, on disait, c'est la... parce que c'est une ville quand même moyenne, on est bien d'accord.
Il y a toujours les données du CNC qui s'amusent à traiter de la statistique.
Oui.
C'est des centaines de pages de stats qui mettent en avant quelles sont les villes les plus cinéphiles, les occasionnels, les réguliers. Enfin voilà, à éplucher, ça pourrait prendre des mois. Mais oui, Évreux est toujours très, très bien classé, évidemment, même s'ils sont plus premiers, mais après, c'est pas...
Et vous connaissez un petit peu les profils des spectateurs ou pas du tout? Vous avez une idée aussi du profil ou pas?
On n'a pas encore refait de profil exactement à la réouverture. Pour l'instant, on s'applique.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça a vraisemblablement beaucoup changé.
Oui, certainement.
Donc, c'est sûr que ça a changé. Les habitudes de consommation ont changé. On le sait, tout le monde le dit, mais on le sait, on le sent. Et on s'est pas encore tout à fait attelé à redéfinir le concours de les contours de notre spectateur type. C'est qu'il y en a encore.
Oui, bien sûr. Oui, parce que en fait, il y a quand même les plateformes qui sont quand même très forte concurrence au cinéma.
Oui, non, c'est un point de vue
traditionnel, je veux dire. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est cinéma traditionnel comme on l'a ici.
Oui, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est pas aussi simple. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est pas aussi simple que ça de dire que les gens qui viennent moins au cinéma, c'est parce qu'ils regardent les plateformes. Ça serait un raccourci qui me semblerait un petit peu facile. Je pense que c'était une évolution qui arrivait, quoi qu'il arrive. Elle a été certainement accélérée par le contexte sanitaire, mais on était sur des tendances où le développement des plateformes et la multiplication des supports allait arriver. Maintenant, le cinéma a évidemment toujours sa place et rien ne vaut une projection sur un écran de cinéma. Il y a une campagne qui était, à mon sens, très bien faite quand on a rouvert le cinéma. C'était au niveau des premières parties, c'est-à-dire juste avant qu'on démarre le film, on passait des images du film, notamment de James Bond ou un autre, sur notre grand écran de la salle, mais à la taille d'une tablette. On se rendait bien compte de la différence et ce que ça peut représenter. Donc l'expérience, qu'elle soit collective ou même de spectacle, ça ne peut pas être remplacée par une salle de cinéma.
On arrive à la fin de notre entretien. D'abord, je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie.
J'avais une seule question, une seule.
Si je peux y répondre.
Mais c'est sûr que vous allez y répondre. D'abord, je pense que vous êtes un passionné de cinéma. Première chose, je le suis.
Ça fait 18 ans,
oui. Et deuxième chose, quel est votre film préféré ou celui qui vous a marqué? Et on terminera là-dessus. C'est la question piège. Pas du tout, hein.
Non, c'est pas une question piège. Je vais pas réfléchir longtemps. Si c'est le film, ça sera Hit de Michael Mann. Parce que c'est à un moment donné celui-là qui m'a ouvert sur d'autres cinémas. Voilà. Pour moi, c'est. Il y a tout dans ce film. C'est un film qui doit avoir 25 ans maintenant, parce que je crois que c'est 1996.
Oui.
Et je pense que ça fait 25 ans que je regarde les deux monstres sacrés qui jouent ensemble se faire des échanges qui sont absolument fabuleux et sous la caméra d'un metteur en scène qui est parmi les plus grands. Maintenant, voilà, il y a évidemment beaucoup d'autres films qui, chaque année, me marquent. Mais bon, on va dire le premier.
Voilà, c'est ça, le premier. Bah, merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et puis, on vous souhaite un bon festival et surtout une bonne suite.
On espère.
Et pas la fermeture.
Surtout ça.
Merci beaucoup. Merci.
Merci Marie-Claude pour ce bel interview et merci aussi à M. Joubiot d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. C'était fort passionnant. Et maintenant, nous allons retrouver Lucette pour sa chronique du cinéma dans l'Eure.
Dans l'Eure et même dans toute la Normandie. La Normandie a été d'abord une terre de diffusion aussi. Grâce au cinéma ambulant. Le premier a eu lieu à Évreux, dans le jardin de l'évêché, si je ne me trompe pas. Oui, je pense. Ou du jardin botanique. Ce cinéma ambulant est passé aussi de village en village, dans les salles de classe, dans les salles de café. Des petites villes ont eu aussi leur cinéma, Conches, Breteuil. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Reste le Viking au Neubourg, le cinéma de Gisors et peut-être d'autres qui ont été rachetés par les mairies pour pouvoir continuer à vivre. Le musée du cinéma de Bueil, lui, contribue à transmettre une bonne partie de l'histoire du cinéma. C'est la fille de Jean Delannoy qui en est à l'initiative. Ce musée a mis cette année en honneur Michel Audiard et l'année prochaine, l'année sera consacrée à Charlie Chaplin. Sont organisés aussi de nombreux festivals. On en a entendu parler tout à l'heure. Le film d'animation du Neubourg, le festival du film d'éducation à Évreux. Cette année, il y a eu 700 films de programmés. À Bernay, c'est l'association pour le Burkina Faso qui présente le cinéma africain. Plus original, l'ONF organise dans la forêt de Bord, près de Louviers, branche et ciné. Film qui se passe à l'extérieur, il faut compter sur le beau temps. Les autres manifestations, il y a aussi les films documentaires, le concours des courts-métrages, dont les gagnants sont invités à passer une semaine au Moulin d'Andé pour faire un atelier de réécriture. Notre région, bien sûr, a été aussi souvent choisie comme lieu de tournage pour le grand écran. Et ce choix a entraîné un développement certain du tourisme. À Lyon-sa-Forêt, avec le tournage de Madame Bovary de Claude Chabrol, on a vu de nouveaux aménagements dont la commune a profité bien après le tournage. Cherbourg a été mis à l'honneur avec les parapluies de Cherbourg. Et il y a toute une industrie sur le parapluie qui est connue au niveau international. Les plages du débarquement, bien sûr, avec le jour le plus long, les planches de Deauville, avec un homme et une femme, on pourrait continuer encore longtemps. Si on se contente du département de l'Eure, de nombreux films y ont été réalisés, mais apparemment, aucune production n'y a été complète. Il y a de grands noms qui sont passés. En 1938, c'est La bête humaine de Jean Renoir avec Jean Gabin qui a été tournée. Le château de Gisors, en 1961, a vu une partie du tournage du Capitaine Fracasse. Le train avec Burt Lancaster s'était installé à Passy-sur-Eure en 1964. Le voleur de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo a été tourné à Évreux, place Saint-Aurin et à l'hôtel de la Biche qui a maintenant brûlé il y a quelques années. Des expériences plus modestes ont eu lieu dans des petits villages aussi. Toutes ces expériences ont été très marquantes pour les habitants. Et cette expérience qui a été vécue va être rapportée par Guy et Florence.
Merci Lucette pour ces belles informations. Effectivement, tu nous as appris plein de choses. Alors bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Alors je crois que tu as une expérience cinématographique à nous raconter.
Oui, je vais te raconter ce qui s'est passé dans mon petit village de Vaux-sur-Eure à l'automne 1998. C'est le tournage du premier long métrage Les Cachetonneurs, dont le réalisateur était Denis Dercourt.
Et c'était quoi l'histoire du film?
Attends, je voudrais préciser pour Denis Dercourt, parce que c'est quand même lui qui a réalisé La tourneuse de page avec Catherine Faux, et En équilibre avec Cécile de France et Dupontel, je crois.
Bravo, d'accord.
Enfin, voilà.
Et donc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'histoire du film?
Oui, bien sûr. L'histoire, c'était l'histoire de six musiciens qui devaient donner un concert pour un châtelain au jour de l'an. Et puis, mais manque de chance, il n'y a qu'un musicien qui pouvait venir. Alors, celui qui avait organisé ça a dû trouver cinq autres personnes qui ne savaient pas trop jouer de la musique.
Tous des figurants.
Alors, c'était vraiment assez cocasse.
Et y avait-il des acteurs connus dans la distribution?
Ben oui, il y avait quand même une quinzaine de comédiens, mais vu que c'était déjà il y a 25 ans, moi je me rappelle que de Philippe Clay.
Ah oui, effectivement, c'était un personnage très connu. Moi, je ne me souviens pas du tout. Les gens de notre génération s'en rappellent bien.
Ah, c'était lui, le châtelain.
D'accord.
Le châtelain, il était sourd.
D'accord.
Enfin, presque sourd. Alors, c'est pour ça, avec leur combine de tout trouver des personnes qui ne savaient pas jouer, ça passait quand même.
D'accord. Voilà. Voilà. Et pourquoi le réalisateur Denis Dercourt a-t-il choisi Bossureur?
Oui, il a choisi Bossureur parce que ses parents, ils avaient un petit appartement là. Et puis eux, je dis eux parce qu'il y avait Denis et Tom. Tom était producteur. Alors, ils ont passé toutes leurs vacances là. Alors, ils connaissaient bien Beau, les habitants. Alors, tout naturellement, ils ont tourné leur premier cache-tonneur.
Voilà. Donc, on peut dire que ce film t'a marqué. Et comment était l'ambiance de fête dans le village?
L'ambiance de fête dans le village, elle était formidable. Parce que, bon, disons, c'était une... Parce que quand on tournait le film, faisait partie d'une société de films à 1$. Donc, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent. Et tous les habitants ont fait leur possible pour les aider. Près de voitures, matériel divers, les locaux au château de Vaux, ils avaient presque la moitié du château de Vaux à eux. Voilà.
Et donc on peut dire que les habitants se sont impliqués.
Tout à fait, oui.
Oui, d'accord. Oui. Et est-ce que tu as d'autres séquences à nous raconter, par exemple dans l'église, dans ta maison?
Oui, dans ma maison, tout à fait. Ils ont. Donc, dans notre ferme, ils ont tourné une séquence. C'était le clarinettiste devait présenter à sa mère, sa fiancée, qui était sur le point d'accoucher.
Et il était temps qu'il la présente, alors.
Il était temps. Alors, si bien que pour le réalisateur, c'était... Il a fallu qu'il fasse beaucoup de répétitions pour qu'ils choisissent vraiment l'attitude de la maman. Mais elle faisait la tête. Oh là.
Donc pendant quelques temps, vous n'avez plus disposé de votre maison.
Pendant une demi-journée, parce qu'il y avait comme du matériel d'arrivée, le travelling, tout le bazar, le perche et tout. Et puis nous, on était là en spectateur en coulisses, quoi. Mm-hmm. Il y avait au moins une dizaine de personnes dans la pièce, quoi.
D'accord. Ouais. Bah, tu sais, toi, ton expérience me rappelle l'expérience qu'ont vécu mes parents, il y a déjà plusieurs années, lors d'un tournage d'un Maigret avec Jean Richard et son épouse.
Ah. Ah, mais Jean-Richard, mais je connais.
Oui.
Il a joué, c'était un comique, il a joué dans Le Grand Blond avec une chaussure.
Je crois que tu confonds. Tu confonds avec Pierre Richard. Jean-Richard, non, effectivement, Jean-Richard, c'est le célèbre Maigret avec son chapeau et sa pipe. Et il était aussi très. Il aimait beaucoup le cirque.
Il avait acheté un cirque, et à lui, il avait un cirque.
Voilà, c'est ça. Et
tout à l'heure. C'est bien, excuse-moi. Moi, c'était plutôt Richard.
Voilà. Et donc, la maison a servi de décor au téléfilm. Et mon père a même été figurant comme joueur d'accordéon à la fin du téléfilm. Donc, voilà, c'était une belle expérience pour eux. Et voilà.
On a presque des points communs entre nous.
Mais oui, tu vois, Guy, comme quoi. Ouais. Je n'ai malheureusement pas vécu cette expérience moi-même. Voilà.
Oui, mais quand même. Quand les gens racontent, on peut vivre ce qu'ils racontent.
Ah, mais tout à fait, je sais que ça avait été très marquant pour eux. Et pour conclure, Guy, si tu avais une phrase à nous dire sur le cinéma, que pourrais-tu dire?
Mais quand même, je vais quand même dire après ce que j'ai vécu. Mmh. J'ai remarqué que le réalisateur et les acteurs doivent avoir beaucoup, beaucoup de patience.
Oui.
Et puis, disons, à un moment donné, il y avait une assistante du son qui me disait, Monsieur Georges, vous savez, maintenant, quand vous verrez des films, vous les verrez plus de la même manière.
Oui,
peut-être. Mais c'est pas vrai pour moi. Parce que quand on voit les films, la grande toile et tout, On oublie
toute la technique.
Le travail qui est derrière. Mmh. On oublie tout.
C'est la magie du cinéma, d'ailleurs.
La magie du cinéma, comme tu dis, c'est bien.
Voilà.
Alors, comme conclusion, tu me demandais, avec tout ce que j'ai découvert, finalement, il n'y a pas que sur la toile que le cinéma donne du plaisir.
Merci Guy, c'était très intéressant.
J'ai vu les Bodins en Thaïlande et le dernier c'était en effet pour Santa.
C'était un dessin animé, c'était tous en scène.
Je les ai hier soir. Alors je ne vous le donnerai pas en version espagnole parce que je ne parle pas l'espagnol, mais ce sont des naissances parallèles, des mères parallèles. Je ne le dirai pas en espagnol. Enfin, c'est le film de Pedro Almodovar.
La méthode William.
Ça va être Joker, à Ivrush. Je pense qu'apparemment, ça va rappeler Taxi Driver à certaines personnes de mon entourage que c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de revoir. Puis j'aime bien les Marvel de manière générale, c'est ma génération. Donc, voilà. C'est une bonne question.
C'est en direct et c'est maintenant. Action. Je vais vous parler de mon cinéma. Celui qui m'a fait rêver. Celui qui m'influençait pour m'habiller, je m'en rends compte aujourd'hui. Mes vestes, mes cravates, l'imper blanc façon flic ou voyou. J'aimais les grands du Cinoche, leur dialogue à la Audiard. Je me souviens de Jean Gabin, le boss d'alors, il l'appelait le vieux. Je pense que le jour où on mettra les cons en orbite, t'as pas fini de tourner. Jean-Paul Belmondo, le caméléon virevoltant. Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. Lino Ventura. La force tranquille. Les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Alain Delon, le séducteur flamboyant. J'aime qu'on m'aime comme je m'aime. Et tous ceux qui les accompagnaient. Bourville, De Funès, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, François Perrier, Serge Régène, l'inoubliable, Michel Piccoli et tous les autres. Sans oublier les géants du noir et blanc. Jouvet, Michel Simon, Rému, Pierre Freinet, Fernandel. Bigre, je me suis planté, j'ai mis les héroïnes après, excusez. Brigitte Bardot, sa plastique et sa voix légèrement traînante. Annie Girardot, qui endossait tous les rôles, émouvante d'en mourir d'aimer. Romy Schneider, le mystère et la fragilité à fleur de peau, son destin d'ailleurs. Jeanne Moreau, la classe teintée de tragédienne. Catherine Deneuve, l'élégance personnifiée, est toujours avec nous aujourd'hui sur les écrans. Mireille d'Arc et sa robe vertigineuse dans Le Grand Blond, l'ingénue de l'époque. Voilà mon cinéma. Pour finir, j'ai gardé le couple Signoret et Montand pour la fin. Nos presque voisins à Auteuil-Montouillet. Simone, la beauté de la jeunesse, mais une fin de vie difficile, la dignité et l'intelligence. Elle vivait ses rôles. Montand, tous les talents, chanteur, auteur, acteur, du charisme, il cochait toutes les cases. Macho aussi, ça plaisait à l'époque. Je la pétais un peu, mais bon. Simone Signoret était la stabilité du couple, son phare politique aussi, bien qu'elle s'exprimait moins. Elle était auteure aussi. Club d'enfants, mais ne vous méprenez pas. J'adore le cinéma d'aujourd'hui. Karine Viard, Catherine Faure, Sandrine Kiberlin, Nathalie Baye, Marion Cotillard, nos acteurs, Guillaume Canet, Jean Dujardin, François Cluzet, Pierre Ninet, Franck Dubosc, Albert Dupontel. Voilà mon cinéma. Vive la péloche et vive le cinéma.
Vive le cinéma!
Merci Michel. Et bien maintenant Marie-Claude, et oui, encore une fois Marie-Claude, qui a été notre grand reporter de cette émission, qui a donc un invité en direct qui est au téléphone. Donc je vous laisse avec ton invité. Alors.
Merci, Florence. Monsieur Foulogne?
Oui, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone, hein, puisque vous ne pouvez pas être en présentiel, comme on dit maintenant.
J'aurais préféré.
Moi aussi. Mais on va faire avec. Hein. On vous adapte de toute façon. Alors, avant toute chose, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi avoir choisi cette activité, qui vous a influencé et pourquoi le Neubourg?
Il n'y a pas que le Neubourg, il y a c'est le cinéma tout court. Qui m'a influencé? Bah, rien. Je me suis en fait aperçu aujourd'hui que j'avais eu beaucoup de chance quand j'étais plus jeune, c'est d'avoir une envie, une passion, quelque chose qui me dévorait, qui me donnait envie d'avancer. Ce qui n'est plus tellement le cas des jeunes aujourd'hui, et je suis malheureux pour eux, parce que, en fait, je ne savais pas que j'avais cette chance d'avoir une envie. Et envie, c'était le cinéma, c'est l'image projetée. Il y avait deux passions, c'était le cinéma et le théâtre. Voilà, ce sont deux passions que j'ai réussi à assouvir dans ma vie. Et le Neubourg, pourquoi? Ben, c'était plutôt à une période où j'avais restitué des salles à différentes municipalités parce qu'elles étaient sauvées. Et puis j'avais plus envie d'y retourner, sauf que quand on m'a demandé de visiter la salle du Neubourg, j'ai trouvé la dernière séance, j'ai trouvé Eddie Mitchell, j'ai trouvé tout ce que j'aimais dans le cinéma. Et je suis reparti, évidemment, sur l'aventure depuis presque 20 ans maintenant.
Donc, en fait, vous êtes aussi à la tête de l'association Rexis Sirius du Havre et La Viking, c'est ce cinéma dont nous parlons au Neubourg, est un cinéma indépendant. Racontez-nous un petit peu.
Alors, indépendant, si la ville n'avait pas choisi de faire tout ce qu'elle a fait pour le sauver, il n'existerait plus, ça c'est sûr.
Oui.
C'est un cinéma qui a plus de 60 ans. Qui faisait partie de ces grandes salles qu'on fabriquait avec des balcons, parce qu'à l'époque, oui. On refusait du monde sur les dimanches et les week-ends. C'est plus le cas, c'est dommage. Mais en fait, ça s'est très bien passé avec les municipalités respectives. Il y avait une vraie envie de sauver cette salle, il y avait une vraie envie qu'il se passe quelque chose. Madame Vauclin, qui est maire du Neubourg aujourd'hui, était adjointe à la culture sur le précédent mandat. Et puis ça fonctionnait bien, quoi. Et puis c'était un petit peu un pari qu'on s'était fait. Si on passait les 25 000 spectateurs, en rigolant, il y a 20 ans, puisqu'on était à 7 000, quand j'ai repris le Viking, c'était un peu un pari pour rire entre nous, dire, bon ben voilà, si on fait plus de 25 000 entrées, ben on construira une deuxième salle. Et puis la deuxième salle est arrivée parce qu'on a dépassé les 25 000. Et j'en suis ravi. Oui. Alors, c'est vrai que sur une ville de 4 000 habitants,
c'est une gageure, c'est une gageure.
Oui. Aux spectateurs et à la ville. Oui. Après, moi, j'amène les films que les gens ont envie de voir, mais ça, c'est mon boulot. Oui. Mais s'ils ne sont pas présents et si la ville n'est pas présente pour tenir en état un cinéma comme celui-là, parce que financièrement, c'est un choix qui coûte cher à la municipalité. Et s'il n'y avait pas déjà la municipalité au départ, le cinéma n'existerait plus.
Alors, vous faites face, en plus de ça, à des grosses sociétés, des gros complexes. Comment est-ce que vous leur résistez et quels sont vos atouts?
Je ne leur résiste pas, je fais autre chose.
D'accord, oui.
C'est
et hop, vous... Voilà.
C'est ça, c'est ouais. En fait, pour les mêmes raisons que pour le Sirius au Havre, qui est un cinéma qu'on a reconstruit il y a 6 ans, et que j'ai depuis 32 ans, je me suis battu avec les architectes pour que, de nouveau, il y ait des écrans avec des rideaux, qu'il y ait des lumières de rideaux. Je suis à l'envers de tout ce que tout le monde peut fabriquer aujourd'hui, pas pour être différent, parce que c'est ça qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. C'est ça qui m'a fait rêver. C'est d'abord rentrer dans une salle et le rêve commence. Le décor déjà, vous êtes sorti de chez vous.
Voilà.
Vous étiez déjà ailleurs. Et c'est ça que j'ai voulu. Et dans cette deuxième salle du Viking, il y aura encore des choses qui rappelleront l'ancienneté du cinéma et l'amour du cinéma d'il y a 50-60 ans. Même si on va être sur une technique totalement moderne et plus que moderne, puisque on sera devant des choses qui seront installées depuis peu de temps dans différents lieux, mais ça n'empêche pas que la technique doit être au sommet, mais l'image doit donner envie de rester dans une époque un peu révolue.
Alors, parlons un peu de la programmation, parce que, comme vous nous avez dit, vous êtes hors des grands circuits, mais comment avez-vous accès aux nouveautés, sur quels critères faites-vous vos choix, quels sont vos contacts ou vos réseaux qui vous permettent d'amener tous ces films à grand spectacle, quand même?
J'ai pas de réseau, je travaille avec tout le monde, moi. Tout le monde connaît mon sale caractère, mais en même temps,
ça marche.
En même temps, ça fonctionne généralement. C'est-à-dire que le premier qui a réussi à faire confiance au Neubourg, c'est Henri Desmoulins chez Pathé, qui, sur une tournée, juste après les Ch'tis, a dit aux comédiens, oui, les Ch'tis, dire pourquoi pas. Passer par le Neubourg pour présenter Danny Boone au public du Neubourg. On n'a pas eu le temps de coller d'affiches, on n'a pas eu le temps de faire de publicité, que déjà tout le monde était au courant et qu'on avait quasiment toute la ville du Neubourg devant la porte pour acheter des places. Et à partir de là, ça n'a plus changé. Danny est venu présenter tous ses films depuis celui-là. Il a vraiment un coup de cœur pour cette salle, puisqu'il a même demandé à ce que 50 minutes Inside soit tourné dans le Neubourg, dans le cinéma, parce que c'était justement une salle qui ne reflétait pas ce qu'il voyait tous les jours comme les multiplex. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est moche, ça ne veut pas dire que technologiquement ils ne sont pas bons, mais il avait envie d'être vu ailleurs. Voilà. Donc de là, après tout découle, c'est le mouchoir entre eux. Et puis là, on passe à des caméras, et on passe à Michel Galabru qui est passé. Qu'est-ce qu'il y avait eu?
Franck Dubos, vous m'avez dit aussi.
C'est lui qui est venu dernièrement. On a eu quand même Albert Dupontel, qui est plus qu'un ami pour moi, qui est venu quand même au Neubourg présenter le film avant de gagner ses Césars. Enfin voilà. Le bouche-oreille fait que tout le monde dit « Non, vas-y, tu vas voir, t'es dépaysé. » Donc, les comédiens sont dépaysés, mais c'est ce qu'on veut aussi des spectateurs, qu'ils soient dépaysés.
Bien sûr. Qu'on refasse un peu un retour arrière des cinémas que nous connaissons.
Le fait de cette deuxième salle va permettre, en fait, de pouvoir élargir l'éventail de possibilités et de propositions. On sait bien tout de suite que c'est la comédie. La comédie française populaire qui fonctionne, mais pas qu'au Neubourg, un peu partout. Et dans les périodes qu'on a tout de suite, on peut comprendre que tout le monde en ait envie, moi le premier.
Alors,
on oublie parfois, juste pour terminer, on oublie un peu parfois les jeunes qui ont envie de voir des films d'horreur, qui ont envie de voir des Avengers, qui ont envie de voir des choses comme ça. Et cette deuxième salle va pouvoir permettre d'ouvrir à ça, et d'ouvrir aussi aux films d'auteur, sur lesquels, malheureusement, il y a beaucoup moins de monde, mais il y a quand même un panel de gens qui ont envie de les voir.
Ouais. Quelques chiffres à nous donner, fréquentation, nombre de films, avant-première, est-ce que avez-vous ça en tête ou
non,
pas du tout?
Non. Toutes les avant-premières qui ont été faites avec des artistes ont toujours été complets, ça c'est sûr. Bien longtemps avant qu'ils arrivent. Maintenant, les derniers chiffres qu'on peut donner, ce sont les Bodins, sur lesquels, une ville de 4000 habitants, on a fait 2500 spectateurs.
Oui, c'est ça. Le Neubourg, ville cinéphile quand même. Hein.
Oui. Et puis, les Tuches, on a fait 800 sur la première semaine, et puis ils continuent. Les Bodins continuent aussi, d'ailleurs.
Alors,
c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu que ce soit un cinéma programmé au mois, mais à la semaine, comme dans les grandes villes. En fonction du résultat, on rentre, on garde ou on garde pas. Alors, c'est en fonction du résultat qu'on va continuer.
Ouais. J'ai une collègue qui voudrait vous poser une question, monsieur.
Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Juste une petite question.
Bonjour,
bonjour, c'est Florence. Et donc, combien de temps restent les films à l'affiche chez vous?
Il n'y a aucune durée prévue.
Il n'y a aucune durée, d'accord.
Il n'y a aucune durée prévue. Soit le film ne fonctionne pas bien, ce qui arrive, parce qu'il y a un genre de cinéma qui ne fonctionne pas bien, et il peut passer que 8 ou 15 jours à des films qui fonctionnent très très bien, qui eux peuvent rester 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines.
D'accord.
Alors, nous arrivons presque à... 2 minutes, voilà, voilà. J'avais, il y a des techniciens qui me font des signes là, font des cabalistiques presque. Bon. Alors nous arrivons quand même à la fin de notre interview et qui était très enrichissante pour tout le monde.
Mais on le refera.
Oui, et en plaisant,
on y arrivera avec plaisir si vous le souhaitez. C'est bon cœur.
Alors, en effet, vous nous avez annoncé tout à l'heure, vous nous avez dit quelques mots. Tous les jeudis matin, mon petit doigt m'a dit que vous étiez en réunion de chantier au Neubourg pour une construction de la 12e salle. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus et on se quittera là-dessus, s'il vous plaît.
Eh bien, un tout petit peu plus, je vous dis oui.
Donc,
voilà, pour diversifier les propos, pour diversifier les choix,
oui.
La ville, de nouveau, la ville a décidé de faire le choix de monter une deuxième salle, ce qui est un énorme investissement pour une commune comme le Neubourg.
Bien
et
sûr.
Je les en remercie, vraiment, parce que je ne fais pas partie de la municipalité. Si j'en faisais partie, je ne le dirais pas. Je ne les remercierais pas, mais vraiment, c'est un choix qu'ils ont fait. Et ce qui va pouvoir élargir le choix, parce que aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas envie d'aller voir les films pour enfants à 14h. Donc, les enfants peuvent très bien aller dans une salle et les parents dans une autre pour voir autre chose. Ça, c'est un besoin aujourd'hui, c'est évident.
Eh bien, merci beaucoup d'abord de votre présence au téléphone, parce qu'on a du mal à se caler quand même. Bon courage pour la suite et bonne fête de fin d'année. Au revoir, monsieur.
Merci vous de même et à tous les auditeurs. Merci.
Merci.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il est encore un nouveau-né. Je lève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. Sur la dernière séquence, sur la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur mon frère, me fait sourire ou pleurer. Mais je connais le destin, le cinéma de quartier. Tu finiras en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. On voyait Gary Cooper qui lui prenait l'intimé. C'était vraiment bien l'enfance, c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient, où est-ce que tu as croyé? Thank you. that I have yet to cross. This I have yet to cross. We don't see what it calls.
Après Eddy Mitchell et sa dernière séance, nous retrouvons donc Michel pour une chronique sur le rôle de la musique au cinéma.
Merci. Quel est le rôle de la musique? Eh bien, essentiel. La musique et le film ont toujours été de bons associés. À l'époque du cinéma muet, les salles l'agrémentaient avec un morceau de musique joué au piano. Le rôle principal de la musique dans un film, c'est d'illustrer de façon synchrone les images, les mouvements, les suivre et les renforcer pour les mettre en valeur. Le choix des producteurs et des réalisateurs de sélectionner le compositeur et après il détermine la tonalité des mélodies, parfois amples et symphoniques ou jouées avec un instrument, guitare, piano ou harmonica. Dans nos mémoires, le thème musical et les images restent toujours associés. Le troisième homme et la cithare, il était une fois dans l'Ouest et l'harmonica. Vous l'avez entendu, c'est notre virgule aujourd'hui. Le grand blond et la flûte. Les compositeurs de musique et les réalisateurs travaillent souvent en duo sur plusieurs films. On les retrouve au générique. Le cinéma forme ainsi des familles recomposées, solides mais fidèles. Vladimir Cosma et Yves Robert, Francis Lai et Claude Lelouch, Ennio Morricone et Sergio Leone, Éric Serra et Luc Besson, et puis Michel Legrand et Jacques Demy. La musique nous interpelle, nous capte, puisque nous faisons de la radio en direct, je vous le rappelle, encore Michel Legrand, l'indicatif RTL depuis 55 ans, 5 notes, la la, fa, mi, fa, c'est lui. Ça, c'est de la musique.
Eh bien, de nouveau, Michel, pour un coup de cœur, coup de gueule, je crois qu'il va nous parler de la colère.
Les mots à la mode, stop. Après des années avec consensus, nous voilà avec colère. Dès qu'il y a un problème, colère. Le travail, colère. La santé, colère. Les voitures, colère. Les élus, colère. Et hop, on passe d'un sujet à un autre, encore colère. Et le tout en 30 secondes. Toujours de façon négative, dans un climat bouillonnant, anxiogène. L'impression que la colère résout tout. Illusion que cela. On règle les problèmes sur un temps long, mais ce n'est pas celui des médias, bien sûr. Halte à la colère. Je n'en veux plus de ce mot que l'on met à toutes les sauces. Ne m'appelez plus jamais colère. La colère, elle m'a laissé tomber. Et depuis, je revis. Je revois, même si l'avenir ne se teinte pas toujours de rose. Tant de belles choses se font avec de belles gens. La dose de colère journalière, non. Et merde au dealer, de colère, bien sûr. Oui, si la joie existait.
Merci Michel pour ce coup de gueule ou coup de colère.
Et voilà, notre émission est terminée. Nous espérons avoir satisfait une part de votre curiosité. Peut-être avons-nous commis quelques erreurs. Il faut nous en excuser. Peut-être n'avons-nous pas traité tous les sujets que vous auriez voulu. Réjouissez-vous. La balle est dans votre camp maintenant. Cherchez les informations qui vous ont manqué. C'est passionnant. Un conseil, allez au cinéma sans modération. Et si un jour vous entendez « Arrête ton cinéma » quand votre imagination semble extravagante, n'écoutez pas ce conseil. Continuez à rêver et à créer. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 27 janvier 2022 pour la prochaine émission de vous à nous. On vous dit presque tout. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine et restez fidèles à Principe Actif 102.4. Bonne année! All the way. All the fun is to ride in a wonderful silver sleigh.